Canal M, on aime l'été. Et quel été nous avons, mes amis. Clotilde Seille au micro dans le chic studio de Canal M en compagnie de...
Emmanuel Robitaille.
Alors aujourd'hui à l'émission, ces choses qui contribuent à notre longévité, et ça c'est Emmanuel qui va en faire le tour. Et puis c'est le début des inscriptions pour la programmation d'activités d'automne 2018 du RAM. À ce sujet, on reçoit Christine Le Tendre qui va vous aider à faire un choix.
Et si vous êtes un proche aidant d'une personne âgée, sachez qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mises à votre disposition. France Remette nous éclaire là-dessus. Et la transcapacité. C'est le sujet de la chronique sociopop de Benoît Racette aujourd'hui.
Et puis Maxime Despomerleau nous fait vivre une virée culturelle à Saint-Sauveur et une plongée en Écosse, s'il vous plaît. Et puis enfin, nous allons recevoir Roland Smith, qui est un petit peu le monsieur cinéma du Québec et qui va nous remettre en mémoire 40 films qu'il faut avoir vus au théâtre Outremont.
Cherchant l'amour, j'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel.
Aimes-tu la vie?
J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime bien la nuit dans les nids du paradis.
Aimes-tu la vie?
Dis-moi qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu
Aimes-tu la vie? Aimes-tu la vie comme moi, boule noire sur Canal M?
Et si on aime la vie, ben y a une question qu'on peut poser à du monde. Parfois, on leur dit, toi, est-ce que t'aimerais ça, vivre plus vieux, plus longtemps? Et il y en a qui disent oui, 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 oui. Puis il y en a qui disent non, 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 non. Là, on va plutôt penser à ceux qui disent oui, oui, oui. Emmanuel, c'est possible, ça?
Ben, c'est vrai, parce que si on aime la vie, on veut qu'elle perdure. Quand on aime quelque chose, on veut que ça dure le plus longtemps
possible. Oui, mais dans un bon état.
Ben, exactement.
Voilà.
Et parce que la fontaine de jouvence, on la cherche, on l'invente et on la réinvente à chaque siècle, à chaque millénaire. Faut dire qu'il n'est pas arrivé encore le jour où l'humain va abandonner l'idée de perdurer ou de vivre plus longtemps. Et à cet effet-là, plusieurs recettes, entre guillemets, de longévité nous ont été offertes un peu partout.
Bon.
Certains font leurs preuves, d'autres partent au vent avec le temps. Oui, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On sait qu'il y a un aspect héréditaire qui nous prédispose à vivre plus ou moins longtemps, mais il reste qu'entre nos mains, il y a des choses qu'on peut faire. On a des options pour y participer activement. Et voici donc, pour notre grand plaisir à tous, ce qui peut contribuer à notre espérance de vie en tant qu'être humain, selon le Reader's Digest et quelques petits apartés que j'ai trouvés ici et là.
D'accord.
Les bons gras. Bon, numéro un, parce que de plus en plus, on se rend compte que le gras, c'est pas un problème. Je répète, le gras n'est pas un problème. J'espère que ça vous fait plaisir à la maison.
Oui.
Moi, ça fait mon plaisir. En fait, au Canada, la consommation de gras, elle a diminué de quasiment 15 % et le taux d'obésité, lui, continue à augmenter. La qualité des gras, c'est la clé. Et on parle alors des gras insaturés, des oméga-3 et d'absolument éviter les gras trans et saturé. Concrètement, de qu'est-ce qu'on mange finalement? Je t'entends, Clotilde,
oui,
me poser la question.
Oui.
Remplacer le beurre par de l'huile d'olive ou du canola, remplacer la viande par le poisson, remplacer des chips par des noix. À la collation, des amandes, par exemple. D'ailleurs, les études démontrent que ceux qui mangent différentes sortes de noix vivent plus longtemps que ceux qui n'en mangent pas pantoute.
Ah.
À considérer.
Ah.
Petit aparté à ce point-là, d'ailleurs, diminuer le nombre de calories en général augmente l'espérance de vie et ça diminue le vieillissement et les signes d'avancement en âge. Parce qu'une diète faible en calories, dans le fond, ça diminue ton métabolisme et donc ton corps a besoin de faire moins d'efforts et donc il se fatigue moins rapidement. Plus facile à dire qu'à faire, tu me diras. Pas tant que ça. C'est loin d'être radical. On parle d'une diminution de 15% de notre apport calorique étendu sur 2 ans. C'est suffisant.
Ah, OK.
À prendre en note.
Mais ça dépend peut-être aussi de l'activité de la personne.
Ah, ben absolument!
Parce que l'activité intellectuelle, contrairement à ce qu'on pense,
et ça tire
réclame.
Du jus.
Ça réclame beaucoup de calories, mesdames et messieurs.
À tous les hyperactifs mentaux. Effectivement. Deuxièmement, avoir une vie spirituelle active, c'est prouver que les gens qui fréquentent les lieux de culte, prières, rassemblements, en vue d'une croissance spirituelle personnelle, ont moins d'hypertension, de maladies respiratoires, circulatoires et digestives. Je ne sais pas ce qui reste après ça, finalement, parce qu'on vient de toucher à peu près tous les systèmes du corps humain.
Alors ça me surprend.
On ne sait pas si c'est l'éloignement du stress quotidien pour se recueillir ou le sentiment d'appartenance qu'on trouve là ou encore le sentiment de paix en conscience qui vient avec ces pratiques-là. Mais littéralement, les études le démontrent, que le fait de s'y vouer une fois par semaine augmenterait l'espérance de vie de 3 à 4 ans.
Où est-ce que tu l'as trouvé, cette étude-là?
Reader's Digest.
Ah, OK.
Research Digest.
Oui, ça, c'est comme la sauce Worcestershire. C'est le genre de sauce qu'on n'arrive pas à dire.
Je ne me lance pas. Point numéro 3, la respiration profonde qui impérativement aide nos cellules. Parce que le stress chronique, ça leur cause de l'inflammation à nos gentilles petites cellules.
Et t'as vu, je prends des notes. Hein?
Hey, tu prends-tu des notes?
Parfait. Oui, je prends des notes, certes.
Alors, la méditation, elle a démontré une efficacité à apporter des changements bénéfiques aux cellules immunitaires des personnes atteintes de cancer. Mais comment on fait pour respirer mieux? Mais prendre conscience de sa respiration première des choses et toutes les heures, dès qu'on y pense, en fait, s'arrêter et prendre 2 minutes pour respirer profondément par le ventre. Alors, vous inspirez en comptant jusqu'à 4, on prend une pause et on expire en comptant jusqu'à 6. Et peu importe comment on le fait, 15 minutes de respiration profonde par jour, ça diminue la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le taux d'hormone du stress, le cortisol, dans le sang.
Et on recommande le livre de Nicole Bordelot.
Tout à fait.
Que tu avais déjà reçu.
Que j'ai reçu quelques fois à l'émission Emmanuel avec un M2L.
Exactement, parce que elle vraiment... Elle nous donne tellement envie de méditer. Bon, je referme la parenthèse parce que t'as encore
Mais on peut méditer
en
faisant la
dire.
Vaisselle. Hein?
Ben oui. Tu sais où je médite le plus, moi? Dans le métro.
Et parfait. Ouais. On s'arrête. Quatrièmement, faire le bien. Agir avec amour.
Ah
t'sais?
Oui.
Parce qu'aider les autres, ça nous aide. Et on peut commencer par nos proches, nos voisins, mm-hmm. puis étendre ça à notre communauté. Trouver une cause qui nous tient à cœur. Tendre la main. Donner, c'est recevoir. Et ça contribue à diminuer le taux de dépression et de mortalité par la maladie. C'est des constats confirmés et affirmés par les études. Numéro 5, mm-hmm. dormir, mais pas trop. Ah. En fait, dormir moins de 6 heures contribue à des décès prématurés parce qu'on est moins vigilant, donc il y a plus de risques d'accident, tout d'abord. C'est aussi relié au diabète, à l'obésité, à la dépression, aux problèmes cardiaques. Mais trop dormir, c'est pas mieux. Plus de 9 heures de sommeil par nuit comporte exactement les mêmes risques. Les gens qui dorment 7 heures vivent plus vieux que ceux qui en dorment 8. Et accompagné d'une sieste en après-midi, ça diminue les risques de crise cardiaque de 30 %. Sain! Un bon Québécois, 30 %!
mais courte, hein? Parce que si vous dormez... Voilà, c'est ça.
Donc, utiliser le sommeil comme gage de santé, dormir à des heures régulières, dormir 7 heures et faire une sieste de 20 minutes en après-midi, ça va nous aider. 6. Bouger. Oui. On garde un poids santé, on diminue le taux de mauvais cholestérol, la pression artérielle, on soulage les difficultés mm-hmm. psychologiques et émotionnelles bien connues également. Mm-hmm. Comme la dépression, le stress, et on retarde même l'apparition de la démence avec une marche rapide quotidienne. Sinon, là, juste prendre l'ascenseur au lieu des escaliers, c'est bon. Et ici, au Canalem, on a 5 étages. Hein?
Le contraire, peut-être.
C'est quoi j'ai dit?
Prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur.
Tu vois à quel point ça me tente pas? Acte manqué. Ça y tente pas partout. Prendre l'escalier, bien sûr, au lieu de l'ascenseur. Et non seulement ça, mais ça va plus vite. Donc, vous allez vivre plus longtemps. Mm-hmm. Et vous allez avoir plus de temps de libre ouais. parce que vous allez aller plus vite. C'est quand même une pierre deux coups. J'ai nommé la vie spirituelle comme étant importante et que le sentiment d'appartenance pouvait jouer. C'est important, un réseau social de qualité, de support. Par contre, les études démontrent que chez les aînés, les relations avec les enfants et les petits-enfants, bref, mm-hmm. la famille immédiate, elle n'est pas suffisante. Mm. Cultiver des amitiés sincère, c'est ça l'ingrédient actif. Donc, faire des gestes pour préserver nos amitiés et en prendre soin, c'est important. La vitamine D, mm-hmm. une approche également positive de la vie. Une étude menée sur 100 000 femmes a démontré qu'être optimiste, ça diminue de 14 % le taux de mortalité prématurée, toutes causes confondues. Et finalement, boire du thé vert ou encore mieux, du thé blanc qui dépasse largement en bienfait les antioxydants du café mm-hmm. et du thé noir. Ça atténue les dommages cellulaires causés par le stress, ça protège contre certaines maladies, ça diminue également les risques d'AVC et ces constats-là s'appliquent également aux suppléments de thé vert. Donc, remplacer un café ou une liqueur par un thé oui. à chaque jour, c'est le point de départ. Et si on le fait dans la gratitude, avec le sourire, en mangeant
un
une poignée de noix. En mangeant une poignée de noix, c'est autour d'une table avec trois amis sincères après une nuit de sommeil de 7 heures puis une sieste de 20 minutes. On risque d'être éternel.
Dance me through the panic till I'm gone. Certains d'entre vous auront reconnu Dance Me to the End of Love, pièce bien sûr de Leonard Cohen de 1964. C'était interprété ici par la Canadienne Amy McConnell et on avait également le trompettiste William Sperandé.
Merci beaucoup. Nous avons en studio maintenant quelqu'un qui est entré pendant la chanson. Elle s'appelle Christine Letendre. Elle est directrice adjointe du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain qu'on connaît mieux sous l'acronyme du RAM. Bonjour Christine.
Bonjour.
Christine, on vous a invité parce qu'on sait que le RAM propose toujours une foule d'activités destinées à ces personnes que je viens de nommer, aveugles et amblyopes.
Oui.
Et c'est le temps maintenant de s'inscrire. Donc on va regarder ensemble à quoi on peut s'inscrire. Mais avant tout,
oui,
vous êtes arrivé avec un scoop. Il faut quand même qu'on va commencer par ça. Il y a une nouveauté au RAM.
Il y a une nouveauté, en fait, depuis hier.
Hier.
Le RAM a maintenant sa page Facebook.
Bravo.
C'est tout nouveau. Merci, merci.
Non, mais c'est important maintenant.
Oui,
c'est sûr.
Effectivement. C'est quand même un incontournable actuellement, les pages, les médias sociaux.
Les réseaux sociaux sont une façon tellement rapide et simple de rejoindre tout le monde.
Ben, en fait, de rejoindre une part de la population aussi, parce que ce ne sont pas tous les membres du RAM qui sont sur Facebook. Par contre, c'est un outil supplémentaire. Avec tous les autres outils qu'on utilise pour parler autant aux membres, autant au grand public.
De vous faire connaître
oui,
également,
tout
exactement.
Tout
oui.
à fait. Donc, c'est depuis hier. C'est facebook.com/RAAMM.MTL. Mais si on cherche avec regroupement des aveugles
voilà.
tout au long et RAM,
voilà.
on va trouver.
Même si on fait juste RAM, RAAMM, on tombe dessus?
2A2M, oui.
Est-ce qu'on peut l'essayer en régie, s'il vous plaît, quand vous aurez une petite seconde?
Alors,
c'est pas
va...
que je vous crois pas,
non,
hein, c'est
non,
parce
non.
que je pense toujours à nos auditeurs
oui.
qui nous disent souvent, et ils ont raison, c'est trop compliqué quand vous donnez des adresses. Alors on essaie simplement de les simplifier le plus possible.
C'est possible de trouver, il faut chercher dans la section page, par contre, donc, parce qu'il y a quelques
vous
personnes
qui... Vous êtes une page publique,
oui,
vous n'êtes pas
fait,
une page individuelle.
Non, on est une page d'organisme.
On clique « J'aime » et on peut avoir accès à tous les événements, tous les posts que vous allez mettre,
oui,
les publications.
En fait, oui, c'est ça. Comme c'est juste depuis hier, c'est sûr que notre page n'est pas très garnie, mais ça va se bonifier au fil du temps. Donc, ça va être une façon de suivre un peu les dossiers, les enjeux, autant les activités, tout ça. Donc, c'est un bel outil aussi pour suivre.
Ce sera le temps aussi de pouvoir aimer Canal M, par exemple. Comme ça, tous les gens qui viendront sur votre site, pouf, ils vont dire directement arrivé chez nous. Elle est belle, la vie, franchement.
Je vous inviterai à aller voir notre publication d'aujourd'hui qui annonçait l'entrevue à Canal M. Donc,
Christine,
on a déjà fait le lien.
On n'a pas fini de vous aimer, certainement.
On va en nouvelle avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, est-ce que ça fonctionne?
Je tiens à confirmer, donc, dans Facebook, quand on recherche RAAMM, en fait, c'est plus facile si on cherche RAM Montréal ou RAM MTL. Comme ça, ça limite le nombre de RAM parce que aussi RAM est un prénom ailleurs sur le globe. Donc, ça permet de filtrer ces RAM-là. Donc, RAAMM Montréal ou RAAMM MTL ou encore Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Vous devriez trouver ça facilement sur Facebook.
Merci, mon petit JS. Alors, lorsqu'on se rend sur cette page-là, j'imagine que du coup, on peut découvrir les activités qui sont disponibles. Oui. Où on va découvrir,
on va
peut-être.
Découvrir.
On va découvrir,
faire une annonce prochainement pour suivre la programmation. Par contre, la programmation, elle est disponible sur le Publiphone, qui est notre service téléphonique gratuit, accessible 24/7. Et c'est disponible aussi sur le site web du RAM dans la section des activités. Donc, notre site web www.raamm.org. Vous avez toute la programmation d'automne qui s'y trouve. Et les membres aussi, là, sur demande, on peut envoyer un média substitut.
Alors, comme vous êtes là, on va en
oui,
profiter.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette belle programmation pour l'automne?
La programmation nous offre des séries de cours et ateliers et des activités à la carte. Donc, les séries de cours et ateliers, ça va être des choses qui sont échelonnées sur le temps. Par exemple, ça peut être en série de 4 cours, 5 cours ou 10 cours. Dans les séries de cours et ateliers, on a un atelier de poésie en 4 rencontres.
Wow!
J'aime ça.
Oui, tout à fait. C'est une nouveauté. Et ça va être animé par Catherine Cormier-Larose de l'organisme Les Voix de la Poésie. Donc ça va être offert les lundis après-midi à compter du 17 septembre. C'est en 4 rencontres.
Wow! Ça veut dire que là, quoi, on va apprendre, on peut... Les gens vont pouvoir entendre de la poésie,
écrire
eux-mêmes. Ah,
oui.
Fantastique!
Oui, c'est une nouveauté. On est très contents de l'offrir. Parmi les autres cours et ateliers, les séries, on a une initiation à la langue espagnole en 10 semaines, qui va commencer aussi à la mi-septembre.
Es muy, muy importante.
Ça, c'est offert les lundis.
De qu'est-ce? Qu'est-ce que tu dis?
Ça va être offert les lundis en soirée pendant 10 semaines. Dans les autres séries de cours et ateliers, on a toujours la cuisine collective qui est là depuis déjà plusieurs années, qui est animée par José Boyer, qui est une employée du RAM qui vit elle-même avec un handicap visuel. Et cette année, la thématique pour la cuisine collective, c'est la cuisine autour du monde.
Oh.
Donc, on va découvrir en 5 rencontres la cuisine de 5 pays différents.
Parce que oui, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas un problème de vision, je peux vous dire que nous, on connaît beaucoup de gens qui sont totalement aveugles et qui cuisinent chez eux.
Tout à fait.
Ils se fient à leur contenant, dépendamment de la taille, hein, de la forme et tout. Ils sont très, très bien organisés. Et oui, ils utilisent des couteaux qui coupent. C'est parce que moi, c'est toujours ce qui m'effraie. Mais non, eux, ils ne sont pas effrayés. Il n'y a que moi qui suis.
Non, c'est un environnement aussi qui est adapté.
La oui, bien sûr.
Est adapté. Il y a des bénévoles qui sont là ou en soutien. Et les gens vont vraiment mettre la main à la pâte à toutes les étapes de la recette.
Bravo.
Donc, ce cours-là.
D'accord.
Ces cours-là, c'est le mercredi avant-midi pendant 5 semaines. On a dans les autres séries de cours et ateliers le cours de géographie. Ça aussi, c'est une nouveauté.
Et je le prendrai parce que tu sais quoi, ce n'est pas ma force.
En fait, j'aurais tout intérêt à venir.
Le cours de géographie va être adapté aux membres du RAM qui vivent avec handicap visuel. Mm-hmm. Mais c'est sûr que si une personne est membre associé, les membres associés peuvent venir.
C'est
une personne qui
ça.
N'a pas de handicap visuel, mais qui souhaite soutenir le RAM en devenant membre, c'est possible. Donc, je vous invite à vous y inscrire.
Mais c'est quand ça? Très fun, ça.
En fait, celui-là commence le 10 octobre en 4 semaines.
Et c'est géographie nationale, internationale?
Ça va couvrir assez large.
Les chaînes de montagne?
En fait, vous allez avoir un bon tour de la planète,
yes.
Autant géographie, géopolitique, tout ça. C'est animé par deux professeurs de géographie du Cégep. Qui ont accepté de relever le défi de monter un cours de géographie.
Voilà, tu vas savoir que les Alpes, là, c'est en Colombie-Britannique, ma chérie, voilà.
Really?
Excusez-nous, Christine, on est un petit peu indisciplinés.
Ouais, c'est bien.
À peine.
Donc, il y a cette nouveauté-là aussi qui est offerte. Parmi les autres cours et ateliers, on a l'atelier de Gym Tonic. Qui sont des exercices...
Gym
avec
un M.
Oui, je vous ai entendu saliver, mais ce n'est pas Gym Tonic. C'est Gym
Tonic. As-tu vu ma face?
Ben, la mienne, donc j'ai tout de suite pensé à autre chose, bien
gym
sûr. Gym Tonic.
Gym Tonic, oui.
En écho au breuvage, mais qui va nous permettre d'être beaucoup plus en santé que de
et
le
voilà,
boire. Ouais.
Et voilà, donc 110 semaines, ça commence à la fin septembre, le 20 septembre.
Bien.
C'est un cours qui est déjà offert là, régulièrement, celui-là. Parmi les activités à la carte, on a une activité qui commence la saison, avant même notre pique-nique de lancement, en fait, c'est la visite de l'exposition World Press Photo.
Oui.
Le 7 septembre. Cette visite-là est faite le vendredi matin de 9h à midi. Les gens qui souhaitent y participer n'ont qu'à payer les frais d'admission, donc c'est 14 $ ou 11 $ pour les 65 ans et plus. Et les membres vont être accompagnés d'une personne bénévole du RAM qui va faire la description des photos.
Photos.
Donc, c'est vraiment de un à un pour faire la tournée de toute l'exposition. Et la visite va être suivie d'une rencontre causerie avec Alexandre Champagne, qui est photographe et porte-parole de l'exposition.
Oh.
Donc, il va venir nous parler de son expérience, de son cheminement, de sa passion pour la photo et échanger avec les membres au cours de cette visite-là. C'est une visite très, très intéressante. On l'a faite pour la première fois l'année dernière. On le refait cette année.
On continue parce que je trouve ça, je suis tellement contente que tout ça existe, que tout ça soit accessible. J'imagine que les places sont limitées. Hein?
Les places sont limitées.
Donc, c'est maintenant, là.
Ben, en fait, il y a des dates limites d'inscription pour
D'accord.
chaque activité. Donc, j'invite les gens à aller consulter la programmation
D'accord.
sur notre site web ou au Publifun. Ils auront les dates d'inscription limites pour chacune des activités.
Allez, encore une petite surprise. Allez.
Encore une autre surprise. On
D'accord.
a un atelier de peinture parfumée.
Hein?
Oui.
Oh. Ben oui.
Qui va être offert en soirée le 3 octobre. Donc, la peinture, en fait, contient des parfums. Ça va être je crois que celle-là, c'est des parfums de fruits. Donc, on peut prendre une couleur.
On avait des feutres comme ça dans ma jeunesse, où on avait le rose qui sentait le melon d'eau, mais c'est la même chose, mais c'est vraiment agréable.
Pour que les gens sachent que si ils posent du bleu, par exemple, ils vont savoir le parfum qui correspond au bleu. Est-ce que
Le parfum qui correspond au bleu, oui et non, dans la mesure où on pourrait avoir différentes thématiques sur la forêt, les fruits, tout ça. Nous, on a choisi les fruits pour cette fois-ci. Mais ça permet aussi de faire des mélanges parfumés tout en mélangeant la couleur, en créant une. Donc, chaque personne va pouvoir créer sa propre œuvre et la ramener à la maison après.
Ramener?
Oui, tout à fait.
Oh, mon Dieu! Mais quand même! Mais l'avez-vous compris? La ramener?
Oui, mon Dieu! Tout à fait!
Oh! Si vous les aimez pas, mes jokes.
Est-ce qu'on a le temps pour une dernière?
Allez, une petite.
En fait, on va avoir aussi une soirée documentaire qui va être le documentaire de l'organisme Mouvement Phase. Leur documentaire, c'est « Ensemble, allons plus loin » sur la mobilisation des groupes en défense collective des droits reliés du domaine du handicap. Donc ça, cette soirée...
C'est plus engagé, là.
Oui, tout à fait. C'est plus engagé. Donc cette soirée documentaire-là va avoir lieu le 27 septembre en soirée. Et c'est en collaboration avec Mouvement Phase.
Merci beaucoup. On rappelle que pour s'inscrire, il y a deux façons pour l'instant, j'imagine.
En fait, pour consulter, il y a le Publifone, le site web.
D'accord.
Et pour s'inscrire...
RAAMM.org.
Tout à fait.
Et pour s'inscrire...
Pour s'inscrire, il suffit soit de contacter par courriel, c'est un petit peu plus long, administration@raamm.org.
D'accord.
Mais les coordonnées sont aussi sur le site. Ou sinon, téléphonez au RAM, 514-277-4401, poste 111.
Et n'oubliez pas d'aller aimer le site du RAM et celui de CanalM. Tiens, allez, hop. Merci beaucoup, Christine.
Merci beaucoup.
Vous revenez quand vous voulez.
Merci
vraiment.
De l'invitation. Je vais revenir.
Je vous en prie. Hein, Emmanuel?
Ah, tout à fait.
Vous écoutez Aime l'été.
Vous êtes toujours à Aime l'été en cette édition du mardi 31 juillet 2018. Je crois qu'on est encore en 2018. Clotilde Seille et Emmanuel Robitaille avec vous. Encore à venir à l'émission. Les proches aidants ont aussi besoin d'aide. Et pour ce faire, on parle de ressources avec France Remette et son invitée Lise Pilon et la transcapacité. Mais que ça vous dise quelque chose ou pas, on va en avoir long à dire avec Benoît Racette également.
Je ne me trompe jamais d'ennemi. À travers eux, je vois comme ils font voir la vie. Eux qui m'ont toujours relevé de tous les faux pas, les mirages. Eux qui m'ont bercé et soigné, même si je n'ai rien d'une enfant sage. C'est à moi de leur rendre hommage. Pas de mauvais esprits, mais d'esprits mal placés, de père ou fils, de mère ou fille. J'ai l'esprit de famille. Pas de trop longs discours quand on parle d'amour. Thank you. l'esprit mal placé. De père au fils, de mère au fils. J'ai l'esprit.
Celle qui a l'esprit de famille, c'est Natacha Saint-Pierre. C'était une suggestion de notre prochaine chroniqueuse qui est en studio, France Remette.
Bonjour.
Comment ça va? Est-ce que je dis France Cardinal Remette ou France Remette?
France Cardinal Remette, habituellement.
Ah, OK. Et Remette. Puis vous dites Remette.
Oui.
Ah, alors donc, ben, il serait peut-être temps de...
On va arrêter de tout briser.
On va arrêter de tout briser, alors. Oh, franchement. France, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. L'esprit de famille, on va en parler beaucoup aujourd'hui avec votre invité, parce que vous n'êtes pas venue seule, mais non. Je vais vous laisser le soin de nous présenter votre sujet et la raison de la présence de Mme Pilon.
Oui, alors je vous présente Mme Lise Pilon, avec qui on va intervenir, là, on va jaser ensemble.
D'accord.
Maintenant, juste avant de débuter, j'avais le goût de vous lire une petite citation toute simple. « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, n'est-ce pas? » Alors, cette citation est bien connue d'Antoine de Saint-Exupéry, prend tout son sens, évidemment, quand on aborde la question de l'aide offerte à un proche. Bien sûr, on pense que ça va de soi là, d'aider quelqu'un, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de notre cœur.
C'est une décision qui est courageuse et qui c'est pas tout le monde qui prendrait la même.
Non, et puis de s'investir à tous les jours, hein,
Là,
c'est à tous les jours ici pour notre invité. Alors écoutez, Mme Pilon va vous occuper de votre mère âgée de 96 ans qui vit dans une résidence. Parlez-nous d'elle.
C'est une personne toute menue et qui en fin de compte, qui aime beaucoup la nature. Elle faisait ses propres confitures. C'était une personne qui était très bien mise, qui était toujours très bien soignée. En fin de compte, c'est une personne qui était très attachante
qui l'est encore.
Parce que
ce que j'entends quand vous nous dites ça, Madame Pilon, c'est que vous devez faire attention pour respecter tout ce que cette femme-là a pu aimer dans sa vie, et notamment d'être bien mise, peut-être, d'être bien coiffée. C'est bien ça?
Oui, et je l'accompagne encore toujours chez le coiffeur la manicure. Pour elle, c'est très important, et puis on a continué d'aller...
Le bien-être.
Lui plaire.
Voilà, c'est ça, exactement.
Oui. Ce qui résonne quand vous parlez et d'avoir introduit votre mère de la sorte, c'est de nous rappeler à nous, dans notre visage, c'est vous. Ça peut être vous plus tard.
Oui.
Une personne avec des intérêts, avec une identité, avec des habitudes, quelqu'un à part entière.
Oui. Exactement.
Oui.
Exactement.
Oui.
Maintenant, elle est en perte d'autonomie, je crois. On a échangé là-dessus. Pouvez-vous nous dire
En fin de compte, elle a des pertes auditives et visuelles. Et puis, elle a aussi beaucoup de douleurs articulaires qui lui viennent très fréquemment. Pour elle, c'est très souffrant. Et ça l'amène des fois à s'isoler dans son appartement au lieu de descendre en bas pour aller dîner. J'essaie, moi, de la stimuler pour qu'elle aille en bas à la salle à manger pour pouvoir, en fin de compte, encore
sortir de son appartement.
Oui. Madame Pilon, vous parlez beaucoup de votre maman.
Oui.
J'aimerais que vous nous parliez de vous. Comment est-ce que vous vivez tout ça? Est-ce que c'est correct, France? Parce que vous en parlez, les gens n'ont pas l'image, avec un grand sourire, avec fierté de cette maman-là pour qui vous faites beaucoup d'efforts. J'ai envie de vous demander, mais vous, comment vous vivez ça?
Bien, c'est une personne, j'ai l'impression qu'elle m'a inculqué pas mal de choses.
Oui.
Sans m'en apercevoir, oui. Je l'ai vue aller. Et puis, j'ai développé, en fin de compte, un respect d'autrui. Mmh. Des choses là, vraiment qui m'étaient très importantes. Oui. Là, et c'est pour ça, là, je pense que...
Alors, que vous faites tout ça.
Les valeurs.
Oui, oui, des très grandes valeurs. Oui, des très, très grandes valeurs.
Moi, je me souviens, vous m'aviez raconté qu'elle s'occupait elle-même de sa mère. Hein?
Oui. Et très longtemps, mon grand-père, bien, sa mère et son père. Et en fin de compte, elle a dû le placer à l'âge de 80 ans. Mais elle s'occupait de lui. Il venait tout le temps à la maison le dimanche. Et il partageait un repas avec nous. C'était très important, la vie de famille.
Quand le moment est arrivé où vous avez dû prendre une décision, il y a une transition qui arrive, on doit s'en occuper. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que ça a été une décision naturelle, certaine, ou il y a eu une réflexion à prendre ou à faire?
Non, c'est venu naturellement. Mm-hmm. Oui, c'est venu naturellement.
Pour vous, c'était une évidence?
Oui, c'était une évidence. Il faut dire aussi que je suis seule en tant que telle.
Parce c'était que... ma prochaine question. Oui. Vous êtes seule pour vous en occuper?
Oui, parce que mon frère est décédé à l'âge de 38 ans et je ne peux me fier sur personne d'autre en tant que telle, à part des cousins, cousines.
Vous n'avez pas d'enfant, donc, c'est ce que je crois comprendre.
J'ai un enfant.
Vous avez un enfant.
J'ai un enfant de 30 ans.
Okay.
Oui. Sauf qu'il est occupé, et il est architecte. En ce moment, c'est vraiment sa carrière qui bâtit. Là, fait que...
C'est que quand on prend la décision d'être un proche aidant, c'est une décision qui est individuelle. Et parfois, autour, c'est pas tout le monde qui prend décision avec nous. Donc, vous, l'aide que vous avez ou que vous auriez besoin dans votre vie.
C'est ça. Je veux dire. Et ça, je pense que ça, d'ailleurs, France, c'était votre prochaine question.
Bien, c'est ça. On voulait savoir comment vous vous ressourcez, finalement. Parce que j'imagine que vous le faites. Vous avez l'air quand même épanoui dans ce rôle-là.
Bien, je prends le temps pour moi. C'est très, très important. J'ai un réseau de soutien.
Oui.
J'ai des bonnes amies. Puis j'ai des membres de ma famille à qui je peux me confier.
Okay.
Ça me permet aussi d'avoir une vie sociale, un repas chez l'un, une sortie à des concerts.
C'est important, hein?
Je fais partie aussi également d'un regroupement qui s'appelle le RSDO. C'est pour les femmes seules et divorcées et séparées. Ça, c'est un regroupement pour briser l'isolement et puis ça me permet de participer à des conférences, à des groupes de croissance personnelle.
Ah, c'est super, ça!
De participer aussi à de nombreuses activités comme des soupers, dansants.
Parce que
voyage, je pense. Vous m'avez parlé d'un voyage que vous allez faire en octobre.
Oui, en octobre, je m'en vais à l'Étoile du Nord et puis c'est avec un grand groupe là, de personnes. Et puis, on va pouvoir pouvoir échanger pendant 3 jours. Fait que là,
ce que ça revient à dire en France, c'est qu'il faut être drôlement en forme pour appuyer comme ça, pour soutenir.
Oui.
Et qu'il y a beaucoup de proches aidants qui sont en détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire, France, Cardinal Raymette?
Je me disais, pour c'est ceux là qui là, nous parler de ça. C'est que dernièrement, elle me disait que le CLSC est impliqué justement.
Bon.
Pour offrir des services, parce que là, elle commence quand même à être fatiguée.
Bien sûr.
Elle a eu un épisode.
Il y a l'appui également, comme ressources communautaires?
Oui, il y a l'appui. L'appui est très important parce que je me dis, les gens qui ont besoin d'aide, dans le fond, allez vers votre CLSC. Puis pour avoir beaucoup plus d'informations complémentaires, il y a l'appui. On peut les rejoindre au www.lappui.org. Et le numéro de téléphone, 1-855-852-7784.
Qui est le info aidant.
Exactement.
Pour briser cet isolement, vous n'avez pas l'air, vous, entre guillemets, d'en souffrir, de le vivre, mais une chance pour votre maman.
Et je dois vous dire que je fais de la natation. Je fais du sport. Je veux me remettre aussi au vélo. Mmh. J'essaie là, de vraiment penser à moi. Je me permets aussi d'avoir de pédicures et manicures.
Allez hop, et... comme maman. Il n'y a pas de raison.
Le message que vous lancez actuellement, c'est quand on est proche aidant, on mérite d'être aidé. La première personne qui peut s'aider, c'est s'aider.
Oui,
soi-même. Oui. France et Lise, merci infiniment d'être venue nous rappeler l'importance de s'aider soi-même et aussi la bonté que ça prend de prendre soin de quelqu'un qu'on aime. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Retour en 1980 avec la formation Visage et Fade to Grey, qui est une demande spéciale de notre prochain chroniqueur.
Qui a beaucoup de vocabulaire et qui nous arrive chaque semaine avec un nouveau mot à nous mettre en bouche.
Voilà.
Benoît Racette, bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter pour vous parler de mots.
Tu nous parles de mots, mais de
quoi,
mots qui sont pleins de sens.
Oui.
Benoît, pour cette chronique sociopathique. Pop.
Oui.
Cette semaine, tu nous amènes vers un terme qui, ma foi, peut faire rebondir certaines personnes. J'ai consulté l'étude sur laquelle tu t'es penchée cette semaine et j'ai réagi très, très fortement, mm-hmm. comme probablement 112% des gens de la population qui vont avoir entendu ce terme-là. Et on parle de transcapacitisme.
Mm-hmm, exactement. Puis d'habitude, cette chronique fait pop. Là, on comprend bien, ça fait boum. Transcapacité, qu'est-ce que c'est? On va d'abord se référer à un article qui a été écrit, entre autres, par Alexandre Barry, qu'on connaît bien, dont j'ai déjà parlé à l'émission précédente. Et le titre, je vous le donne en mille, « Le code de l'acquisition volontaire de handicap pour repenser les solidarités entre les mouvements sociaux ».
Donc j'entends « acquisition volontaire de handicap ».
Donc voilà, ce sont ces personnes transcapacitaires qui décident volontairement et qui ont le besoin, même quand ils sont au départ non en situation de handicap, de transformer leur capacité, leur sens, même de se donner au fond une forme d'handicap.
Est-ce que tu as des exemples concrets?
Ça serait une bonne idée d'en donner, oui.
J'aimerais ça.
Ben, si vous voyagez un peu sur Internet ou que vous avez envie d'avoir des images en tête, très souvent, il s'agit d'un tatou à l'extrême, souvent. On a quelques exemples de ça, des gens qui se tatouent jusqu'à parfois se scarifier.
Oui,
ça peut être
oui.
dans l'œil, ça peut être aussi avoir des implants qui peuvent redonner une autre forme au visage. Certains adoptent toutes sortes de visages. Là. Mais on pourrait inclure là des chirurgies esthétiques, le culturisme et peut-être même la chirurgie de réassignation de sexe. Donc, évidemment, on ne questionne absolument pas les motifs, les raisons qui nous amènent à ça, mais toutes les transformations significatives au corps, des modifications corporelles qui pourraient être de nouveaux handicaps ou des changements dans les capacités.
Mais c'est très intéressant ce que tu nommes parce que oui, il y a tous ces aspects de genre dont mm-hmm. tu as nommé, mais il y a aussi les gens qui veulent atteindre une cécité,
oui.
une surdité, mm-hmm. une amputation volontaire d'une jambe mm-hmm. ou d'un bras.
C'est des cas extrêmes.
D'où, ben, justement, oui. Il y a certaines sphères dans ce que tu as nommé qui s'en viennent un peu plus normalisées. Mm-hmm. La plupart restent assez marginales.
Oui, ben, en fait, c'est assez marginal dans le sens où on a assez peu d'exemples. Il y a des personnes par activisme, par esthétisme qui le font. Quand je dis activisme, c'est qu'il y a des gens de fait de par le monde qui, pour dénoncer le capacitisme, ont voulu vivre une situation d'handicap. Comme il y a des gens pour des raisons de mode de vie. Et de toute façon, ce qui est vraiment important, c'est que dans l'étude, on ne s'intéresse pas au pourquoi. Ça existe, point, même si c'est marginal.
Parce que je tiens à le mentionner à la maison et pour nos auditeurs, on se pose tous la question. J'ai mm-hmm. demandé 4 fois à Benoît ce matin, mais pourquoi les gens veulent perdre un membre?
Il y a vraiment des gens qui veulent se rendre sourd exprès.
Exactement. Et Benoît m'a dit 4 fois, ouais. nous ne parlerons pas de ça, nous n'avons pas à savoir pourquoi les gens font ça. Et mm-hmm. je me suis dit, mais dans le fond, ce qui nous dérange dans notre cerveau, c'est qu'on part de l'idée où un corps idéal, ou un corps souhaité et désiré, c'est un corps complètement valide. Et là, mm-hmm. on part de l'inverse. On part d'un corps qui n'a absolument rien. Et le corps idéal mm-hmm. d'une personne qui n'a absolument rien et qui a un corps normal, ben pour lui, c'est qu'il lui manque un membre, qu'il lui manque un sens. Et ça, ça vient nous perturber profondément dans nos valeurs.
C'est ça l'intérêt, en fait. C'est pour ça que les auteurs pose cette question-là. C'est parce que ça nous fait comprendre notre regard sur les capacités. Et je vois là que je vois que Clotilde en perd ses capacités orales.
Mais je trouve ça effectivement passionnant. Mais alors, me dis, si on ne parle pas du pourquoi ces gens-là font ça, vous êtes en train de me dire, ce qui est intéressant là aujourd'hui, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que ça nous fait à nous?
Oui, voilà.
Quel est notre Exactement. Regard sur ces transcapacitaires? C'est comme ça que vous les appelez.
Exactement.
Parce que,
et c'est vrai que c'est dérangeant.
Parce que, Benoît, ce que tu disais, c'est les transcapacitaires dérangent, mais les femmes qui choisissent d'être transcapacitaires dérangent encore plus.
Effectivement. D'une part, elles sont minoritaires dans la communauté transcapacitaire. D'autre part, ça met en relief ce qu'on attend des femmes. Hein. Et les auteurs en parlent. C'est très sexiste, très hétéronormatif, notre regard sur le corps des gens, des femmes.
Qu'est-ce qu'on attend des femmes?
On attend, en fait, que les femmes soient automatiquement genrées féminines, très féminines, ou encore qu'elles aient des attributs assez particuliers et, en général, qu'elles s'adressent aux hommes. Et c'est ça qu'on attend. Alors, une femme a tendance à s'enlever tous les attributs qu'on a tendance à donner aux femmes.
À se raser la tête.
À se raser la tête purement. Mm-hmm. C'est pas pour rien qu'Hubert Lenoir parle de femme rasée avec un côte de cuir. Même être une femme rasée avec un côte de cuir, ça choque l'œil. Mais ça va plus loin. Ouais. C'est que ce qui arrive, c'est que ces femmes-là, dit les auteurs, sont à la jonction des systèmes capacitistes, sexistes et hétéronormatifs parce que elles ne sont pas vues comme des personnes sexualisées. Dans la conception sexiste, les femmes qui ne sont pas féminines n'ont pas de sexualité. Ou encore, pire, de l'autre côté, elles sont sur-sexualisées et fétichisées.
J'allais le dire.
Et on entend ça souvent chez les femmes en situation d'handicap aussi. En fait, disons-le, les femmes en situation d'handicap sont très souvent... à risque de violence sexuelle, mais dans l'imaginaire, comme par exemple les spécialistes de l'imaginaire des Autochtones le disent aussi, les femmes autochtones sont sur-sexualisées. Enfin bref, ce qui tombe hors de la norme des femmes a tendance à attirer nos regards très sexistes.
Si vous parlez plus des femmes, ça veut dire qu'on remarque ça alors que chez les hommes, on se pose moins de questions?
Ben, on attend des hommes qui puissent être des bad boys. Alors que les femmes...
Viril, non?
Oui, exactement. À la rigueur, la scarification, c'est même dans certains films, c'est extraordinairement magnifié. Là. Avoir une cicatrice, c'est le début du sexy chez l'homme. Mais chez la femme, c'est une marque avec laquelle on est très inconfortable.
Mais si je résume, la femme va faire réagir davantage parce que de par l'objectification de son corps, si elle n'est pas parfaite, dans sa sensualité, sa sexualité, justement, elle devient soit quelqu'un qui devient plus du tout un objet d'ordre sexuel. On n'a plus envie d'elle en tant que femme. On ne la regarde même plus en tant que femme désirable et désirée. Ou au contraire, ce qui va commencer à nous attirer chez cette personne-là, ce sont ces différences-là parce que ça devient du fétichisme. Je comprends, c'est ça que je comprends.
On a très bien résumé ici.
OK.
Eh bien, merci beaucoup. Pardon, c'est pas grave.
Ah, OK.
Non, on parle de transcapacitisme, mais le capacitisme, lui.
Et ça, c'est une autre question. La capacité. En fait, ce qu'on entend dans transcapacitisme, c'est la transition vers une perte de capacité. Mais le capacitisme, c'est que notre société valorise les capacités.
Tout à fait.
Donc, il faut être fort, il faut être valide, il faut être en santé. La plupart de nos émissions le proposent ici, d'ailleurs.
Et la preuve, c'est qu'on on s'est tous posé la question, pourquoi on voudrait pas être ça?
Oui,
c'est tellement rendu profondément ancré qu'on comprend même pas
c'est ça.
Qu'on puisse vouloir autrement.
Exactement. Et ce que les auteurs rappellent, c'est que c'est encore la persistance de notre modèle médical aussi, parce que le problème de santé, là, on le voit tout de suite. C'est quelque chose que notre œil remarque très rapidement. Puis surtout, il y a même un lien peut-être à faire avec notre système économique actuel.
Probablement.
C'est que la capacité, c'est la productivité. Alors, quand on a un membre en moins, par exemple, quand on ne peut pas exercer des tâches comme les autres, on est dans la gang des improductifs. Et notre système politique économique apprécie assez peu ça.
Donc, on commence à se pencher sur cette question-là, sur des niveaux économiques et politiques et sociaux, parce que ça a des implications, nécessairement, du moins, dans la façon dont on fonctionne.
Oui.
Actuellement, Benoît, on va peut-être pas se coucher moins niaiseux ce soir, mais on va clairement se coucher
plus
ouvert, plus informé et clairement beaucoup plus pensif. Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez Aime l'été.
Emmanuel Robitaille, toujours avec vous et en compagnie de Clotilde Say. Pour cette dernière partie d'émission, Maxime Despomerleau nous fait faire une virée culturelle à Saint-Sauveur et une plongée en Écosse. Et enfin, Roland Smith, le monsieur cinéma du Québec, nous remet en mémoire 40 films qu'il faut avoir vus au théâtre Outremont.
Monte le son. Ouvre les portes. Comme si tout était prévu. À te voir danser nu-pied, c'est sûr ça va cliquer. C'est pas le temps de réfléchir ni de parler d'avenir. Quand on s'amuse, ça passe vite et on connaît la suite. Y'a tout le temps une bonne raison pour remettre au lendemain. Ce coup-ci on fait comme si on est demain. Ce coup-ci je fais comme si, ce coup-là tu fais comme ça. Ce coup-ci on fait comme si on est demain.
Au risque de vous surprendre, le titre de cette pièce, Déjà l'été, c'était la formation montréalaise Bombo Lessé, elle qui a remporté un prix GAMIC pour leur dernier album, Vice Versa, pour la catégorie Musique du Monde.
Ça nous amène tout droit vers Maxime Despomerleau. Maxime, vous êtes là?
Bonjour!
J'adore.
Oh, tellement de soleil
j'adore
dans cette voix.
J'adore l'énergie de Maxime. Bonjour! Maxime, on va faire une plongée en Écosse, on va aller aussi à Saint-Sauveur. Bref, je vous laisse nous présenter tout ce que vous avez vous-même à nous suggérer comme sortie culturelle.
Oui, on a beaucoup de choses aujourd'hui, mais d'abord, je vais commencer par le Festival des arts de Saint-Sauveur, qui est du 2 au 12 août. Donc, ça commence ce jeudi. Ça se passe dans les Laurentides. Et c'est la 27e édition du festival qui a été fondée en 92, mais qui porte son nom depuis 97. Et la mission du festival, c'est vraiment de présenter des artistes en danse et en musique de renommée nationale et internationale, en mettant l'accent sur la création, la diversité et le soutien des créateurs locaux. Et donc, depuis 4 ans, c'est Guillaume Côté, qui est un danseur étoile et chorégraphe associé au Ballet national du Canada, qui assure la direction artistique. Je vais passer vite sur la programmation, mais je n'ai pas le choix de nommer vraiment tous les spectacles, car ils sont exceptionnels. Alors, le 2 et le 3 août, on commence par la compagnie américaine Ballet Met, qui souligne son 40e anniversaire et qui ouvrira le festival avec le classique des classiques, Roméo et Juliette. Alors, c'est la première fois aussi que le Festival des arts de Saint-Sauveur présente un ballet dans son intégralité.
Ah.
Et le 4 août, c'est une compagnie cette fois-ci qui souligne son 50e anniversaire, qui est en tournée pan-canadienne à l'occasion. C'est le Toronto Dance Theatre. Et Saint-Sauveur est son seul arrêt en terre québécoise. Bon. Et au programme, c'est une rétrospective de courtes pièces qui offre un survol des œuvres de la compagnie sous la direction de Christopher House, qui est là depuis 1980. Le 5 août, on va plutôt avec une incursion à Montréal. C'est l'Orchestre métropolitain de Montréal sous la direction de Yannick Nézet-Séguin qui interprétera une œuvre au titre beaucoup trop long pour que je puisse apprendre mon
fils. Ça ferait toute la chronique.
Oui, c'est ça. Mais en gros, Tchaïkovski sera à l'honneur.
Bon.
Et le 8 août, c'est le Hubbard Street Dance de Chicago. Cette fois-ci, on plonge plutôt du ballet contemporain avec 4 pièces présentées et 8 danseurs. On s'inspire de contes folkloriques catalans et on danse sur des chansons du crooner Dean Martin. Mmh. Donc, vraiment une incursion du côté de ce qui se fait dans le milieu contemporain. Et le 9 août, c'est le groupe de musique Yemen Blues qui va être en concert. Et le festival a invité des chorégraphes du Ballet Jazz de Montréal, de la compagnie Les Sept Doigts et des grands ballets canadiens de Montréal à créer des œuvres inspirées par leur musique. Donc, ça va vraiment être sur place. Je n'avais pas l'information que ça allait être de l'improvisation, mais on peut imaginer que ça va être assez groovy. Mm-hmm. Et le 10 et 11 août, c'est un rendez-vous au festival depuis 2013, la Soirée des étoiles. C'est l'occasion de découvrir les grands noms de la scène classique actuelle et dans des répertoires classiques, néoclassiques et contemporains. Et le 12 août, en clôture du festival, Guillaume Côté revient, entouré d'autres danseurs du Ballet national, présenter une nouvelle création. Donc, c'est une première mondiale à Saint-Sauveur. Et en rappel, il y aura également 2 courtes œuvres qui sont tirées du pas de deux de l'été, des 4 saisons de Vivaldi, mm-hmm. et The Man in Black, un hommage à Johnny Cash, qui était aussi un grand succès du festival. C'est 2 pièces qui ont été présentées dans les années passées.
Quelle variété, hein? Quelle variété dans laquelle, quelle diversité dans la programmation, hein?
Oui, puis évidemment, ils ont plein d'activités qui vont chercher la famille aussi. Oui. C'est des nouveautés cette année. Les jeudis tango, les vendredis swing, les samedis trad. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. C'est s'initier aussi à la danse. Mmh. Et c'est vraiment, on a un cours qui est donné par un professionnel.
Wow.
Ensuite, un spectacle. Et après, on est invité à entrer dans la danse soi-même.
Alors, ça, tout ça, c'est au Festival des arts de Saint-Sauveur. Est-ce qu'on est prête à partir pour Lanaudière?
Oui, Lanaudière.
Alors,
le Festival international de Lanaudière, qui commençait le 7 juillet et qui se poursuit jusqu'au 5 août à Joliette. Donc, particulièrement à Joliette pour les dates que j'ai ciblées pour vous. C'est sous la direction artistique de Grégory Charles.
Et encore pour cette année, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années qu'il est à la tête du festival. Et cette année, il avait envie de regrouper les œuvres présentées sous le grand thème de l'amour, la guerre et la musique. Alors, ce soir, à l'amphithéâtre Fernand Lindsay à Joliette, c'est le cinéma musical en plein air avec la projection gratuite du film Le Maître de la scène, un film de 2017, qui est une comédie musicale avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, entre autres. et qui raconte l'histoire de P.T. Barnum qui a inventé une nouvelle forme de spectacle en alliant le cirque et le freak show et qui a donné naissance en fait au cirque Barnum à la fin du 19e siècle. Donc c'est ce soir et c'est gratuit.
Et c'est un très bon film, si je peux me permettre, pour les gens qui aiment les comédies musicales, oui, qui aiment le monde du spectacle et un peu la fantaisie, qui aiment rêver, là, aller voir ça. Mm-hmm. Ça va vous faire plaisir.
Ouais, ouais.
Ah, yeah, merci pour cette petite critique, Emmanuel.
Moi, ça m'a fait plaisir, c'est gratuit.
Donc, je pouvais pas en parler autrement qu'en description. Et ce week-end, les concerts présentés font surtout référence aux guerres du 20e siècle. Samedi, c'est le concert souvenir danse symphonique de West Side Story.
Oui.
Et dimanche, la 7e symphonie de Shostakovich.
Shostakovich, oui.
Merci, Clotilde.
Ça fait plaisir.
C'est comme la sauce Worcestershire. On laisse tout ça à Clotilde. Clotilde s'en occupe.
Et nommé d'après la ville de Leningrad, qui est un symbole de résistance et d'opposition au nazisme et au militarisme. Mm-hmm. Donc, ces deux concerts sont de l'Orchestre métropolitain de Montréal.
Parfait. Et puis, l'Écosse, il nous reste quoi? Il nous reste une petite minute, mon ami Maxime. Qu'est-ce qu'on peut faire avec
les Jeux écossais de Montréal de 2018?
C'est ça.
Exactement, c'est les Montreal Highland Games. Donc, ça se passe dans l'arrondissement de Verdun.
Ouais.
Et c'est deux jours. Ce jeudi, le 2 août, et dimanche, le 5 août. Le 2 août, c'est la parade des troncs. Alors, vraiment, on transporte des troncs d'arbres. Et idéalement, en kilt, avec nos habits traditionnels, cornemuse, tambour, dans Verdun, dès 19h au Parc des Madelineaux. Et ensuite, on marche sur la rue Wellington. Mm-hmm. C'est important de porter du tartan. Et le dimanche 5 août, ce sont en fait les épreuves traditionnelles écossaises. Essentiellement, ce sont des lancers, comme le lancer de la pierre, le lancer des poids, des marteaux, le lancer de la gerbe de foin et le lancer du tronc, qui est l'événement le plus associé.
Voyez-vous, ça fait ça, le scotch. Ça fait ça, le scotch. Ça permet, voilà. Ça permet de décupler une force qui permet à ces gens-là de pouvoir, tiens, alors en plus en kilt...
Ou d'avoir des idées telles lancer des troncs.
Voilà, c'est ça.
Avoir l'idée et avoir la force, quand même.
Exactement. Sur place, on peut voir, il y a une tente à bière. J'imagine que c'est là où les athlètes vont récupérer
s'hydrater.
Un peu
entre
les épreuves. Et il y a un petit mot que je voulais dire. C'est la 5e édition du tir à la corde qui est au profit de l'Institut Douglas, qui est un des plus grands centres de recherche en santé mentale au Québec.
Oui.
Donc voilà, plusieurs équipes vont s'affronter dans le but d'amasser des fonds pour l'Institut.
Et tout ça est fort sympathique et présenté encore une fois avec beaucoup de dynamisme par notre ami Maxime Despont-Mirlot. Merci Maxime.
Merci Maxime.
Ah, merci à vous. À bientôt.
À bientôt.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format, voilà comment mon film commence. Des biceps plein les manches, je crève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras, le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras.
Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Oui, c'est ce qu'on va faire maintenant, de vous amener au cinéma avec, avec l'homme. Moi, je l'appelle le Pierre Tchernia du Québec, je suis convaincue. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Tchernia. Roland Smith, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors,
Monsieur Cinéma, c'est Pierre Tchernia en France.
En France?
Moi, je ne veux pas m'appeler Monsieur Cinéma. Il y a plein d'autres gens là, qui ont...
C'est vrai?
Ben oui.
Oui, mais enfin, vous avez été, vous le dites vous-même, un programmateur de cinéma toute votre vie. C'est ce que vous avez fait, Roland, de programmer des films. Donc, vous êtes quand même, je suis convaincu, très, très érudit dans le domaine.
Ben oui, j'ai commencé le 14 juillet, en fait, c'est pas n'importe quelle date dans l'année.
Oui.
Le 14 juillet 1963.
À programmer des films.
Oui.
Et c'était pour quel...
55 ans. C'était une salle qui était sur la rue Ogilvy, à Parc Extension, Empire, le cinéma Empire.
Empire.
J'ai frappé à la porte parce qu'on avait coupé un sketch d'un film à sketch, parce que c'était un programme double et le propriétaire de la salle voulait faire un horaire qui finit pas trop tard. Alors, il avait coupé un sketch. Alors, je suis allé frapper à sa porte et lui dire, écoutez, moi, je voulais avoir Evinci au complet d'Antonioni.
Ben oui.
J'ai vu déjà La Nuit, qui était au même programme. Oui. Et là, il m'a engagé tout de suite, après la discussion. Puis, j'ai laissé mes études en art graphique pour me lancer dans le monde du cinéma. Ça fait 55 ans que je suis là-dedans.
Et sinon, vous étiez en art graphique, donc?
Oui. Bon. Alors, toutes les communications graphiques de ma carrière, je les ai fait moi-même. Je les ai conçues et les ai fait exécuter par d'autres, comme le dépliant actuellement.
Voilà, que nous avons ici sous les yeux. Il a été conçu par vous.
Oui.
Alors, ça s'appelle les films de notre vie.
Oui.
40 films qu'il faut avoir vus. Et ça fait suite à ce qui s'est passé l'an dernier. Rappelez-nous, l'an dernier, ça s'appelait
Les films de ma vie.
Oui.
Alors, les films de ma vie, moi, j'ai une compagnie qui s'appelle Les films de ma vie.
Oui.
Alors, je présentais ma carte à Raymond Cloutier, qui était alors le directeur du Théâtre Outremont.
Outremont, oui.
Puis il me dit, c'est un très beau nom, ça, pour une série de films. Il dit, les meilleurs films que tu as vus, tu peux nous programmer le mois d'août. Alors là, j'ai programmé 57 films l'an dernier. Et cette année, il y en a 40. Et voilà.
Bon, mais c'est vous qui aviez choisi à ce moment-là. C'était vraiment les films de ma vie, donc de votre vie.
Oui, cette année, le nouveau directeur du Théâtre Outremont, Denis Simpson, m'a demandé, peux-tu continuer? J'ai dit, j'aimerais faire quelque chose un peu différent.
Oui.
Je connais une cinquantaine de personnes, je vais leur écrire, je vais les appeler. Puis il y en a 20 qui ont répondu dans le délai. Alors donc, on présente les films deux fois pour la plupart. Quelques-uns sont montrés une fois. Il y a un film qui est montré trois fois, c'est The Shining.
Oui.
Tous les films sont soit en français original ou en anglais avec sous-titres français, puis quelques-uns en espagnol avec sous-titres français.
Oui, formidable. Alors, il y a des films québécois, évidemment.
Oui.
Heureusement, ça aurait été terrible qu'il n'y en ait pas, mais il y en a.
Il y en a trois. Il y a Le Jardinier, qui est un film que je distribue moi-même. Il y a La Muse errante et il y a aussi Les Ordres. Il y en a un quatrième, je m'excuse.
Ah oui, Les Ordres.
Il était une fois dans l'Est, d'André Brassard.
Oui. Et ce sont tous des choix des 20 personnalités qui vous ont répondu, dont Denise Bombardier, entre autres, et plusieurs autres qui font partie du choix de programmation.
Oui, il y a même Pierre-Carl Pellado qui a reçu un email de moi, puis il a peut-être appelé une de ses assistantes. Puis il m'a dit, j'aimerais bien présenter 1900. Ben là, j'ai dit, on l'a montré l'année dernière. Fait que là, je vous rappelle demain, M. Smith. Alors, elle me rappelle le lendemain.
Mais c'est
là,
un
dis,
film énorme,
ça.
C'est un film en deux parties, non?
Il le présente en deux soirs différents. Deux entrées différentes. Alors là, il me dit, on va présenter Les Ordres. Elle m'a rappelé le lendemain. Ben j'ai dit, madame, est-ce que c'est possible qu'il présente aussi 1900? Parce que Pierre-Carl Pellado qui présente 1900, là, ça, c'est quelque chose.
Ben oui.
Alors, donc, il a deux films, lui.
Parfait.
Il y a Roch de Merce aussi qui en a deux.
C'est lui qui est porte-parole également de l'événement.
Oui.
Oui. Et alors, il y a des gens, moi, qui m'ont surprise. Tiens, tu parlais tantôt de Denise Bombardier, mm-hmm. qui est allée dans le classique des classiques. Ben autant oui, t'en emporte le vent, Gonna ben Win the Win. Non, mais
oui. Je serais curieux de savoir combien de gens l'ont vu, autant emporte le vent. Tu sais, c'est... Il y a des gens qui l'ont vu à l'époque, puis ils ont vécu des émotions en le voyant, hein, ce film-là. C'est un film qui nous fait pleurer, qui nous fait...
Ben oui, absolument. Et Roland, vous serez d'accord avec moi. De toute façon, c'est vous qui l'avez écrit et j'ai trouvé ça très, très brillant. C'est vrai qu'on a tous, entendu dire ou on a tous dit à un moment donné ou à un autre à quelqu'un, il faut que tu vois ce film. Mais finalement, ce festival-là, il est fait pour ça. Il est fait pour que 20 personnes disent à des milliers de personnes, il faut que vous veniez voir ce film si vous l'avez raté. C'est exactement ça.
Absolument, absolument. Vous savez, un choix comme ces grands classiques-là, il y a deux genres de films là-dedans, puis ça s'adresse à tous les publics. Alors, il y a des grands classiques, puis il y a aussi des films méconnus, qu'il faut découvrir. Je pense, par exemple, à Vincent Leclerc, qui est bien connu pour ses rôles à la télé. Lui, il a choisi Le destin de Will Hunting.
Mm-hmm. Oui.
Combien de gens ont vu ce film?
Avec Matt Damon.
Ben oui, ben oui. Jean-Claude Laure, lui, il a choisi la grande comédie musicale West Side Story.
Ben oui.
Oui, Gilbert Sicotte, il a choisi un film, un grand classique, Le Parrain, imaginez-vous donc. Mais on en a fait la couverture de notre dépliant.
Ben oui. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que vous nommez, c'est que oui, il y a des grands classiques, il y a des choses à découvrir. Et donc, ce festival-là, ça s'adresse tant aux néophytes, aux gens qui n'ont pas écouté beaucoup de films et qui choisissent cet événement-là pour aller se mettre à la page, et aussi pour ces gens qui sont des cinéphiles, qui ont tout vu et qui peuvent aller encore découvrir ou renouer avec leurs grands amours.
C'est tellement extraordinaire de regarder un film sur grand écran.
Oui, vous avez raison.
T'sais, laissez votre Netflix pendant un mois, là, s'il vous plaît. De toute façon, vous avez payé pour l'année. Donc, laissez-les de côté. Puis là vous allez vraiment... avoir du plaisir à regarder ces grands classiques-là et faire des découvertes. Ouais. Les Demoiselles de Rochefort, là, c'est vraiment un film extraordinaire avec les deux sœurs de Neuve d'Orléac, avec la musique et les chansons de Michel Legrand. Rochefort, c'est une petite ville extraordinaire. Je l'ai vécu, je l'ai vu l'an dernier. C'est juste au sud de La Rochelle.
C'est ça.
Et de l'île de Ré.
C'est
vraiment...
Ah oui, non, mais moi aussi, j'ai été touchée parfois de voir certains. Par exemple, vous avez choisi le documentaire sur Mercedes Sosa.
Oui.
La voix de l'Amérique latine.
Oui, ça gagne. Moi, je programme à chaque année depuis 8 ans maintenant, c'était la 9e année cette année, le festival de films latino-américains.
Oui.
On l'a montré il y a 4 ans, ce film.
Et, vous avez été bouleversé.
On l'a repris cette année, parce qu'on avait une cancellation d'un film. On l'a repris. Les gens votent. Ils ont voté pour le meilleur film de la rétrospective.
Ah oui,
alors, on le reprend dans les films de notre vie.
Il y a, ça commence quand et ça finit quand, Roland?
Bon, alors, ça commence jeudi. Présence de la mairesse de Montréal.
Mme Plante.
Parce que Valérie Plante, vous savez, c'est sa salle. Hein, ça appartient à la ville d'Outremont maintenant, qui fait partie de l'arrondissement de ville d'Outremont, mais ville de Montréal sur l'île.
Bon.
Et ça se termine le 2 septembre.
Le 2 septembre. Alors, on peut acheter au billet, au film. On peut acheter une série de films, si on veut, j'imagine.
Oui.
On achète ça à Outremont ou est-ce qu'on peut acheter ça sur place?
Sur place et... vous savez, l'atmosphère qu'il y a dans cette belle vieille salle avec les décors d'Emmanuel Briffard de 1929, c'est une salle qui était ouverte peu dans le temps du cinéma muet, puis qui n'a pas perdu de son cachet. Qui vraiment, c'est voir des films à l'Outremont, c'est vraiment magique.
Ah oui. Mais justement, vous parlez de ne pas perdre son cachet. On parle de films restaurés, la qualité va être là.
Ah, absolument.
C'est remasterisé?
Absolument. Oui, ce sont tous des films en DCP.
Qu'est-ce que vous appelez DCP?
DCP, c'est toutes les salles de cinéma à Montréal sont équipées en DCP. Oui. C'est un fichier numérique de haute résolution, de bonne qualité.
D'accord. Bon,
alors, génial.
Et il y a du stationnement, je le précise, parce qu'il y a des gens... Oui, non, mais c'est vrai.
Ça
peut être rebutant. Oui. Là, hein, vous offrez
ben,
même
À l'époque, là, il y a 20 ans, quand j'opérais cette salle, il n'y avait pas de stationnement.
Voyez-vous.
Mais là, aujourd'hui, dans les deux cours d'école le soir... C'est possible de le faire.
Merveilleux. On peut donc aller là jusqu'au 2 septembre. Les films sont présentés en matinée, en soirée?
En matinée, le samedi, dimanche.
Oui.
Plus le soir, mais évidemment, les jours de semaine, mardi jusqu'au vendredi, 2 séances par soir.
Bon.
Parce que le lundi, il y a Ciné Outremont, qui est un événement annuel. C'est le lundi.
D'accord.
On touche pas à ça.
Roland Smith, on se quitte avec la question qui fait mal.
Ah.
Ah oui?
Oui.
Mon Dieu, je t'inquiète pour vous.
Au nombre de films que vous avez vus dans votre vie, revus, s'il en reste qu'un, est-ce que c'est possible? Et si oui, c'est lequel?
Oh là là, je pensais que vous m'étiez pour me demander celui que je préfère le plus.
Oui, c'est
Citizen Kane.
C'est Citizen Kane.
Mais je voulais le montrer à nouveau cette année. Mm-hmm. Les droits sont expirés pour les salles de cinéma. C'est pas possible de le montrer.
Ah oui?
Alors, donc, j'étais malheureux.
Le grand Orson Welles, bien
ben
sûr.
Oui, ben oui, ben oui.
Pour vous, ça reste quand même le film de tous les temps.
Ben oui, il y a Le voleur de bicyclette aussi, de Sica,
bien
que
sûr.
J'ai montré l'an dernier.
Oui.
Ça aussi, c'est un film important pour moi dans l'histoire de ma vie.
Roland Smith, c'est un plaisir de parler cinéma avec vous. On pourrait vous garder pendant une heure de temps et parler de tous ces vieux films.
Absolument.
Et merci de nous avoir permis, à nous tous, aux auditeurs et à nous-mêmes, de nous poser cette question et de nous dire, mais pour nous, quel est notre film? Quel serait le film qu'on aurait bien aimé?
Moi, j'y pense depuis le début de ce segment. Ça me hante.
Ben moi, j'irais pour L'année de tous les dangers, pour la scène de cette femme qui joue le rôle d'un homme photographe et qui n'en peut plus de voir toutes ces horreurs qu'elle a photographiées et qui regarde le mur avec les photos sur la cinquième, sur la date ghetto de la cinquième de Mahler. Rien que ça, là, pour moi, c'est L'année de tous les dangers. Et là, ce qu'on entend, bien évidemment, et on se quitte là-dessus, c'est Autant on emporte le vent, Gonna Win the Wind. Merci beaucoup, Roland.
Merci.
Au revoir.
Je ne sais pas si je vais être capable de trouver un seul film. Moi, je suis mélomane. Hein. J'aime la musique, j'en mange. Je n'ai pas écouté beaucoup de films. J'en ai écouté énormément des films, mais je ne suis pas une cinéphile aguerrie. Et là, je cherche. Écoute, j'ai écouté Légende d'automne pour la première fois il y a 18 mois.
Ah, ben c'est déjà
pas
mal.
Je suis vraiment en retard. Je ne l'ai pas pantoute. Donc, je continue à y penser en espérant avoir une réponse pour moi-même dans les prochains jours. Et avant qu'on se laisse aujourd'hui, Clotilde Deschamps, auditeurs. Je vous ai parlé comment on pouvait vivre plus longtemps et j'ai rapidement parlé de la vitamine D et je veux vous en dire un petit peu plus sur la vitamine D, particulièrement parce qu'en hiver, on en manque, mais en été, sachez que votre crème solaire vous empêche de la synthétiser et il y a cette application qui s'appelle le D-Minder, D-M-I-N-D-E-R, qui vous aide à calculer votre taux de vitamine D en fonction de votre poids, votre grandeur, votre exposition au soleil, votre nourriture et je trouve que c'est franchement intéressant. C'est disponible sur votre téléphone intelligent maintenant.
Merci beaucoup et merci à tous nos invités. Merci à JS, à la musique et en régie. Salut Emmanuel.
Bye bye.